Histoire d'archives, c'est aujourd'hui notre rendez-vous avec le directeur des archives départementales, Jean-Christophe Labadie. Bonjour.
Bonjour.
Aujourd'hui, vous allez nous parler de transhumance.
Oui, exactement. Donc aujourd'hui, c'est un peu un chapitre particulier de l'histoire du département des Basses-Alpes et aujourd'hui donc des Alpes-de-Provence. Je vais vous parler effectivement d'un projet auquel les archives départementales ont participé, qui consistait donc à mettre en valeur cette, ce qu'on appelle la route, donc le chemin de la transhumance, l'un des chemins de la transhumance. Ce projet, en fait, l'idée, c'était de créer un itinéraire touristique qui donc existe aujourd'hui, donc qui est un GR, qui permet donc d'aller des Basses-Terres de Provence, du côté de la plaine de l'Acros, jusqu'en Italie. La difficulté pour nous, donc puisqu'on était rentré dans ce projet, c'était de proposer donc de suivre l'itinéraire, qui était donc celui du GR, du chemin de grande randonnée, et faire des étapes, de le faire par étapes, et de trouver pour que chacune de ces étapes des documents ayant trait donc évidemment à cette histoire, qui est une histoire très, très importante pour le département. Ça, c'était la première difficulté. La deuxième difficulté, c'est évidemment la question de la cohérence temporelle. Quand on fait un projet, quand on fait une exposition, évidemment, il n'est pas possible de prendre un document très ancien et puis de l'isoler. Donc, il faut essayer de trouver une cohérence. Donc, il y avait, vous voyez, c'était un peu une gageure de réussir à... Voilà. Et donc, on avait choisi comme tranche chronologique la fin de l'Ancien Régime. En l'occurrence, le plus ancien document était de 1783. Et on allait jusqu'en 1945, car vous savez que les archives départementales ont des archives qui ont trait plutôt à l'histoire, même si on a des archives qui ont moins de 10 ans dans le service. Mais donc, on avait une difficulté d'aller au-delà de 45. Voilà. Donc, on a pris donc cette tranche chronologique. On a suivi l'itinéraire proposé pour le chemin de grande randonnée. Et donc, on a décliné tout ça en une exposition qu'on avait présentée d'ailleurs aux archives départementales l'année dernière, avec des panneaux d'ailleurs qu'on peut déplacer. On peut prêter cette exposition, puisque c'est une exposition itinérante, et qu'on avait enrichi par des objets divers qui, évidemment, ont trait à cette histoire. Alors... Du coup, on avait pris donc l'itinéraire classique, donc en fait l'un des chemins les plus importants, et donc on allait de Gréoux, donc jusqu'au col de l'Arche, et donc on a décliné tout ça en différentes étapes. Alors c'était intéressant parce que vous savez, quand on part sur des projets comme ça, donc on s'inscrit dans un projet, on ne sait pas ce qu'on a, on ne sait pas ce qu'on va trouver. Vous savez, en histoire, il y a deux façons de travailler. Soit on prend un thème et on cherche des archives, soit on a des archives et on se dit tiens, c'est intéressant comme thème. Voyez, donc alors en général, évidemment, la deuxième démarche est beaucoup plus facile que la première, car quelquefois on a des difficultés à trouver des documents. Alors, c'est une histoire, il faut le dire aussi, alors nous on a pris cette tranche chronologique Ancien Régime, mais on aurait pu remonter beaucoup plus haut, car la route, on a des documents qui l'attestent dès la fin du Moyen-Âge. Et vraisemblablement, si on reprenait l'histoire et des données archéologiques, on pourrait remonter encore plus loin dans le temps, puisque c'est sans doute une histoire qui remonterait peut-être même au début du Moyen-Âge, voire encore plus haut. Ouais, et donc, voilà. Alors, qu'est-ce que c'est d'abord que la transhumance, en fait? Il faut peut-être expliquer ce que c'est. C'est tout simplement les troupeaux, donc les ovins, essentiellement des moutons, mais pas seulement, il y a aussi des caprins, qui durant la période, on va dire, à partir de la fin du printemps, on va dire, la fin du printemps jusqu'à l'automne, jusqu'au début de l'hiver, quelquefois, fin d'automne, qui donc viennent de la Basse-Provence. Alors quand je parlais de l'Acro tout à l'heure, mais il y en avait aussi qui venaient du Var, voilà, c'est pas limité au Bouches-du-Rhône, donc qui montent dans les montagnes pastorales, avec donc des troupeaux immenses, hein, on ne se rend pas compte, mais c'était des dizaines de milliers d'animaux qui montaient et qui passent donc toute cette période de l'été dans les montagnes pastorales, hein, qui donc, où l'herbe est bonne, hein, et qui, au début de la mauvaise saison, redescendent donc vers des cieux beaucoup plus cléments pour passer l'hiver. Voilà, donc c'est ça. C'est toujours une difficulté, vous savez, pour les populations qui, elles, sont sédentaires, évidemment, d'accepter ces mouvements un peu. Hein, vous savez, c'est toujours, en histoire, il y a une sorte comme ça de jeu entre les populations sédentaires et puis les populations mouvantes. Et en l'occurrence, là, évidemment, quand vous montez avec des troupeaux, vous traversez des terres et ce n'est pas sans poser quelques problèmes. Mais il faut aussi imaginer, on l'oublie, l'organisation que ça nécessite. Hein, on a l'impression comme ça qu'autrefois, les gens étaient moins organisés que nous, qu'ils avaient moins de moyens, etc. Mais ce n'est pas vrai, en fait. Hein. Évidemment, c'est très sophistiqué comme système, et j'en parlerai tout à l'heure un peu hein, sur en prenant des exemples très concrets. Voilà, donc on est parti de Gréoux. Et alors, évidemment, dans les archives, on a beaucoup de documents qui ont trait à des contentieux, vous voyez, à des plaintes. Et donc, à Gréoux, on avait retrouvé, en fait, les plaintes du maire, hein, qui donc effectivement mettait en évidence en fait les soucis des propriétaires, parce que quand ces troupeaux passaient, évidemment, ils avaient tendance des fois à quitter un petit peu le chemin, voyez, et aller un petit peu brouter les récoltes des uns et des autres. Voilà. Donc ça, c'est un vrai sujet, hein, c'est un sujet qui traverse toute cette histoire. Voilà. Alors, déjà, il faut voir aussi que les troupeaux ne passent pas n'importe où. Hein, il y a hein, donc des chemins hein, donc, qu'on appelle des drails ou des carrères. Hein, voilà. Et il y a même une réglementation hein, qui existe. Donc c'était notre document le plus ancien, 1783, qui impose cette règle et qui définit la dimension de ces carrères, hein, donc en fait leur largeur. Alors il y a les grandes carrères et les petites carrères, hein, c'est-à-dire les grandes carrères, c'est celles qui évidemment permettent les grandes circulations, hein, les grands flux. Puis après, il y a les petites carrères qui sont en fait des carrères locales, parce qu'il ne faut pas oublier aussi que les propriétaires dans le département lui-même, hein, donc dans la Haute-Provence, puis dans les Basses-Alpes, il y avait aussi des éleveurs. Voilà. Donc il y a aussi donc, tout un réseau hein, de carrères. La difficulté, c'est que, évidemment, quand vous avez des passages, les gens ont tendance à les grignoter, vous voyez, un peu, à aller chercher, finalement, à aller récupérer un petit bout de terrain, vous voyez. Donc, ça, c'est une démarche tout à fait habituelle qu'on trouve partout, hein, voilà, on grignote, vous voyez, tout doucement. Voilà. Et d'ailleurs, ce règlement de 1783 avait été repris au 19e siècle pour rappeler à ceux qui avaient usurpé hein, des espaces qui sont des espaces publics, hein, de les restituer hein, pour que les troupeaux puissent circuler. Parce qu'avec la Révolution et les désordres de la Révolution, évidemment, les choses ont été un peu modifiées. Hein, les grands mouvements ont été perturbés par la Révolution, par la guerre, pour beaucoup de raisons. Et donc, évidemment, certains avaient profité de ce moment-là pour récupérer un petit bout de terrain hein, sur les carrés. Voilà. Donc on a ressorti le règlement de 1783 pour dire « Attention, Il y a des carrières qui avaient été définies, qui ne sont pas des espaces privés, hein, qu'on ne peut pas privatiser, et donc qu'il faut restituer. » Voilà. Et l'autre difficulté qu'on retrouve au XIXe siècle, c'est la circulation. Alors, il y a des carrières, mais il y a aussi les troupeaux pas sur les routes.
Sur route, bien sûr.
Hein, voilà. Et donc, il y a les nuisances hein, qui sont aussi provoquées par ces moutons. Et l'une des questions, c'est effectivement, est-ce que les troupeaux ont le droit d'emprunter ces routes? Et la réponse est oui, puisque comme tout usager, hein, les routes sont ouvertes à tout le monde. Et on répond d'ailleurs aux autorités qui se posent cette question en disant « Mais de toute façon, s'il y a des dégâts, à ce moment-là, il faut rentrer dans un contentieux, hein, comme pour tout le reste. Hein. » Donc il n'y a pas de raison, effectivement, que ces grands troupeaux passent ailleurs. Ils ont tout à fait le droit de passer sur les chemins, les routes, etc. Et donc, voilà.
Et pour ça, il n'y a pas besoin de prévenir la circulation. Enfin...
Alors, il y a la question de la sécurité publique. Ça, ouais. C'est une question, évidemment, et une question qu'on voit aussi hein, dans le temps. Hein, mm-hmm. Il y a cette question-là. Mais c'est surtout la question du dégât, en fait. Hein. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de dégâts, il n'y a aucun problème. Hein, un troupeau peut passer. Il a le droit de circuler comme les autres. Alors après, il y a la question de sécurité. Alors aujourd'hui, je ne connais pas trop la réglementation par rapport à ça. Hein, puis aujourd'hui, de toute façon, c'est anecdotique, hein, les déplacements de troupeaux sur les routes. Aujourd'hui,
oui, c'est assez court.
Voilà.
C'est assez court.
Oui, en général, ça ne va pas très loin. Aujourd'hui, les déplacements sont en véhicule, en fait. Hein, c'est des camions, on les voit d'ailleurs. Hein, ils passent, voilà. Donc aujourd'hui, les choses sont très différentes. Il y a une époque, c'était le train. On a utilisé le train aussi. Hein, on a utilisé différentes méthodes pour faire circuler les troupeaux. Mais en tout état de cause, hein, cette question qui est posée au XIXe siècle, en fait, elle est résolue en disant, oui, les troupeaux ont tout à fait le droit de passer par ces drailles ou carrères, hein, qui ont, alors à l'époque, en 1783, on dit qu'elles doivent avoir une largeur minimale de 10 mètres, hein, pour les grandes, donc ce qui est quand même très large, hein, ça met de l'espace, mais c'est finalement assez peu quand on voit, hein, le nombre de moutons qui montaient, hein, c'est-à-dire que, évidemment, ça serrait beaucoup, voilà. Et on a, nous, aux archives départementales, des photos fin 19e, début 20e, hein, qui montrent justement ces troupeaux qui montent aux alpages dans les montagnes pastorales, sachant qu'au XIXe siècle, les troupeaux n'ont plus le format, hein, qu'ils avaient sous l'Ancien Régime, où ils étaient beaucoup plus importants. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, on a des troupeaux qui, quand on regarde un petit peu les contentieux, qui font, on va dire, entre 200-300 bêtes, vous voyez, hein, c'est des petits troupeaux qui montent, alors que sous l'Ancien Régime, on avait des troupeaux de plusieurs milliers de bêtes, hein, qui montaient d'un seul coup et qui se suivaient comme un peu, vous voyez, des trains. Vous voyez, il y avait des trains comme ça de troupeaux qui montaient. Voilà, donc on a la plainte de ce maire, hein, qui raconte, lui, que, en fait, donc on est en 1840, qui raconte que, il dit, hein, que ce serait 10 troupeaux de 1000 à 8000 bêtes, hein, donc vous voyez, 8000 têtes, hein, qui, je pense qu'il exagère un peu, hein, pour, vous savez, pour appuyer son argument, hein, qui passent, hein, dans les périodes, évidemment, où les troupeaux montent ou descendent, d'ailleurs, hein, mais c'est surtout là quand ils montent, en fait, hein, voilà, et qui dégradent les cultures contiguës au chemin. Et alors le préfet, lui répond, en fait, hein, c'est intéressant, que depuis l'abolition des privilèges et de la féodalité héritée de la Révolution, hein, donc voilà, chacun est libre de choisir la voie publique qui lui paraît préférable, et ce principe s'applique aussi aux conducteurs du troupeau. Voilà, donc vous voyez, la réponse est donnée au maire de Gréoux qui se plaint à l'époque. Alors, les drailles, on les voit encore, on peut les voir évidemment aujourd'hui encore, hein, physiquement, et certaines sont visibles, mais on les voit, nous, sur le cadastre napoléonien. Elles sont identifiées comme telles. Donc c'est aussi une des façons, hein, qui a permis donc aux concepteurs de la route, hein, de repérer effectivement quelles étaient les grandes drailles, hein, puisque mais vraiment, hein, c'est indiqué, hein, oui, drailles des troupeaux d'Arles, oui, alors selon, on a plusieurs appellations, mais donc on peut les repérer assez facilement. Et c'est là qu'on voit quand même que c'est un réseau qui est évidemment très important, hein, qui évidemment évite en général les bourgs, oui, les villages. Alors c'est vrai dans certains endroits, ce n'est plus vrai évidemment quand on rentre à partir de Digne et jusqu'à, évidemment, Col de l'Arche, où là, on est obligé de suivre la vallée. Alors, il y a des moments où on peut sortir un peu de la route qu'on connaît aujourd'hui. Hein, oui, les rails sont parallèles. Enfin, on est un peu obligé de passer dans les villages. Et là, j'aurais deux, trois anecdotes à vous raconter tout à l'heure à ce sujet que les gens m'ont raconté sur les moutons qui disparaissent. Oui, voilà.
Ah, d'accord.
Oui, bah, oui, il y a des moutons
un petit méchoui.
Voilà, voilà. Donc, il y a des choses comme ça qui... voilà, donc on les voit. Alors après, je fais le chemin, hein, voilà, on arrive donc de Gréoux, on passe, la plupart des troupeaux passaient par la vallée de l'Ass, hein, donc, on avait ce qu'on appelait à l'époque, au Moyen-Âge, les trenteniers, c'est-à-dire qu'en fait c'était des petits groupes de 30 bêtes, vous voyez, on appelait ça les trenteniers, et ça a une importance parce que ça permettait... on comptait les trenteniers pour la question des droits de passage. Car vous imaginez bien que certaines communautés, que passer des ponts, évidemment, impliquait le paiement d'un droit. Vous voyez, donc on comptait comme ça, on comptait par trenteniers. Voilà. Alors, on a, par exemple, un pont qui a été construit sur la rivière Ass dans les années 1130, et alors qui pose problème parce que ce pont... Je parlais de la vallée de l'Ass, mais on peut aussi passer par Oraison, vous voyez, on peut monter par là. Et ça détournait les troupeaux. Or évidemment, c'est aussi une richesse, hein, pour les communes traversées, hein, de voir ces troupeaux passer. Donc il y a eu des conflits comme ça aussi sur les itinéraires. Hein. Il ne faut pas penser qu'ils étaient toujours fixes. Hein, au fil du temps, ils ont évolué. Voilà. Donc on a quelque chose comme ça. Hein, qui Alors là, le pont n'a pas duré très longtemps. C'était un pont privé. Il y avait un péage au 19e, mais il a été emporté en 1882 par une grande crue hein, qui a donc enlevé. Quand il n'y avait pas de pont, il passait à gué, hein, tout simplement. Hein, il passait à gué ou un peu dans l'eau, enfin les pieds dans l'eau. Voilà. Alors, on a aussi des histoires qui sont assez, assez distrayantes, on va dire. C'est un sujet que j'évoquerai une autre fois, le brigandage. Or, évidemment, pour les brigands, hein, les troupeaux qui montent, et surtout leurs conducteurs, sont des proies intéressantes. Parce que quand il faut s'imaginer, quand ils montent avec de l'argent. Ils montent pour plusieurs mois. Donc ils ont évidemment des vêtements, de l'argent, de la nourriture, etc. Et donc on a comme ça une histoire qui est assez drôle, où on a un brigand, enfin trois brigands en fait, hein, vous savez c'est les trois brigands, l'histoire des trois brigands, voilà les trois brigands, qui arrêtent donc des bergers sans doute d'Arles, et le problème c'est qu'il n'y en a qu'un qui s'expose, et les deux autres restent cachés. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? En fait, évidemment, les bergers ne se laissent pas faire et donc réussissent à capturer le brigand. Donc c'est le brigand qui finalement devient la victime. Et alors, il le déshabille et donc lui enlève son arme, etc. et le laisse. Donc le brigand qui s'est retrouvé déshabillé revient voir ses deux acolytes. Et alors, il se plaint, évidemment. Alors, le brigand, il a un surnom, enfin, c'est Garcin, mais il s'appelle Poulipastre, hein, le joli pâtre, voilà, le joli berger. Et s'adresse à celui qui a été déshabillé et lui dit « Il faut être coudon comme toi, dit Jugy, donc, de te laisser désarmer et enlever sa veste, en fait. » Et ce à quoi Jugy, donc, celui qui a été déshabillé, foutu couillon de Poulipastre, si tu étais venu me secourir, ça ne serait point passé. Vous voyez, on a ça donc dans les histoires des archives mm-hmm. qu'on retrouve. Voilà. Ah, donc après, bon, les deux Poulipastre, hein, le joli pâtre, et Jugy, donc celui qui a été déshabillé, ont été capturés par les autorités et condamnés à mort pour vol et assassinat. Donc c'était pas des brigands sympathiques. Hein, oui. Voilà. Bon, en tout cas, on a cet échange comme ça qui est transcrit dans les registres. De l'État civil. Alors, comme le phénomène, évidemment, de la transhumance est un phénomène très important dans le département, on a retrouvé aussi dans les cahiers d'école des exercices à partir des moutons. Alors, je vous en donne un. C'est un problème qui est posé en 1928. Alors, un maquignon a acheté un troupeau de moutons qui lui a coûté 1300 francs. S'il avait payé 140 francs, 25 de plus, chaque mouton lui aurait coûté 44 francs 25. Et donc la question qui est posée aux élèves, quel est le prix d'achat d'un mouton? Voilà. Hein, donc on a. Alors, je ne vous donne pas la réponse, que c'est. Hein, je sais qu'en fait, c'est 40 francs. Voilà. On donne la réponse hein, dans notre publication, hein, parce qu'autrement. Voilà. Et il a acheté 33 moutons. Voilà, voilà exactement. Voilà. Et puis, on a d'ailleurs mis dans l'exposition un panneau qu'on retrouve, vous savez, les panneaux de danger, hein, les triangles bordure rouge, avec le mouton, vous savez. Et on en a. Vous savez, où il y a un mouton, bah, c'est-à-dire qu'il faut faire danger parce qu'il y a des passages de moutons.
Oui, oui, d'accord.
Voilà, hein, on le retrouve dans le département. Et là, on en a un qui était photographié, c'est sur 2 km. Voyez, donc, on a vraiment, quand même, hein, c'est vraiment quelque chose qui est important dans le. Voilà. De la vallée de l'As, on arrive sur le Chaffaut, hein, donc qui donnera lieu d'ailleurs ce soir à une lecture d'archives justement sur la transhumance à 18h30 donc à la salle communale du Chaffaut hein, par la mobile compagnie. Voilà, j'en profite pour en parler. Et donc on n'est pas très loin de Digne hein, en fait évidemment. Et donc alors il faut voir aussi que ces moutons, je dis viennent donc des Bouches-du-Rhône ou du Var, etc. Mais il y a aussi à une certaine époque des moutons qui viennent d'Algérie. Hein, qu'on amène d'Algérie. On en a d'ailleurs pendant la guerre hein, qui vont venir des malades qu'on va essayer de retaper, vous voyez, hein, pour qu'ils reprennent un peu de poil de la bête, si on peut dire, voilà, pour pouvoir les vendre, parce que les moutons, évidemment, à quoi servent-ils? Ils servent pour la laine, mais aussi pour la viande, hein, voyez, les deux, évidemment. Voilà. Et on a même des chiffres qui sont des statistiques agricoles hein, classiques. En 1929, on a le rapport comptabilise 169 000 ovins hein, qui sont en transhumance. Donc, vous voyez, 169 000. Donc, vous imaginez la masse. 120 000 qui viennent des Bouches-du-Rhône, mais 51 000 qui sont d'origine africaine et qui sont souvent porteurs de la fièvre aphteuse, qui est l'une, évidemment, des maladies problématiques. Hein, c'est pas la seule, hein, mais qui est problématique et qui fait que les troupeaux, d'ailleurs, à partir d'une certaine époque, sont surveillés par les autorités vétérinaires, hein, parce que ça, c'est un vrai sujet. Quoi, voilà. Alors, je disais, on les déplace, évidemment, sur les routes, et à une époque, on a utilisé la voie ferrée. Hein, on a transporté les moutons par voie ferrée. En 1930, on a comme ça 14 moutons et 37 moutons alors, indigènes, donc sur place, et 37 moutons algériens qui sont transportés par chemin de fer. C'est une pratique en fait qu'on trouve déjà avant. On a en 1911 hein, l'exemple du maire de Prats qui relève qu'un berger de sa commune est parti le 12 octobre avec son troupeau de 243 brebis pour prendre le train à Digne hein, et retourner près de dans la plaine de la Croix. Vous voyez, donc c'est quand même un usage qui existe, voilà, mais qui ne va pas durer très très longtemps, hein, puisqu'après, ce sera les véhicules à moteur hein, qui transporteront les moutons. Voilà. Et donc, on avait ces moutons-là, en l'occurrence, par de Prats, hein, donc ils redescendent des montagnes pastorales et ils prennent le train à Digne hein, pour repartir. Voilà. Voilà, donc on a aussi ça. Et pour le nord du département, ça vient par le 05, hein, évidemment, par les gares du 05. Voilà. Alors, je disais, la question sanitaire est très importante. Et alors, pour nous, c'est évidemment pain béni, puisque du coup, il y a des contrôles. Hein, les conducteurs sont obligés de présenter des certificats. Ça, c'est la première chose. Et puis, les gendarmes font des contrôles. Et on a comme ça, à Digne, sur tout le circuit, des PV, hein, des procès-verbaux de gendarmerie, hein, pour les contrevenants, pour ceux qui n'ont pas été capables de présenter le fameux document qui leur permet de circuler avec leur topo. Et comme ça, du coup, on connaît non seulement le nom du conducteur, mais on sait aussi la taille du troupeau. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est les petits troupeaux, souvent, hein, des troupeaux de quelques centaines de bêtes. Voilà. Alors on a, par exemple, je donne l'exemple, hein, donc à Digne, hein, les gendarmes qui verbalisent des conducteurs qui ne sont pas en règle, sur le prêt-de-foire, on a des photos aussi, d'ailleurs, où on a, sur le prêt-de-foire, les troupeaux qui sont en attente. On en a aussi, d'ailleurs, à Sisteron. On a des très, très belles images. Alors, je parle de la route, hein, le chemin qui a été choisi, mais ça partait aussi par Sisteron, voilà, hein, il n'y a pas que le chemin actuel n'est pas le seul chemin hein, de la transhumance. Et des photos de Saint-Marcel-et-Céry qui sont très très belles. Où on voit les moutons qui sont en attente, hein, en repos sur la place centrale. Voilà, donc là, en l'occurrence, qui sont sur le prêt-de-foire et le boulevard Gassendi. Donc vous imaginez des moutons traverser Digne-les-Mains, enfin Digne à l'époque, hein, parce que ce n'est pas Digne.
Ah, ça devait mettre une belle ambiance.
Exactement. Hein. Puis avec quand je dis moutons, mais il n'y a pas que des moutons, il hein, y a aussi des chèvres, il y a les cloches, il hein, y a tout, j'en parlerai tout à l'heure, il y a tout ce bruit en fait. Hein, voilà, donc faut s'imaginer ça quand même. Hein, voilà, et qui donc descend du Piémont, donc là c'est dans le sens de la descente, avec 1800 bêtes à laine et 25 chèvres pour Istres. Hein, donc lui va à Istres et il est épinglé donc, le 23 octobre. Vous voyez, donc on est dans le cadre évidemment de la descente, hein, avant l'hiver, fin de l'automne, par deux gendarmes, parce qu'il n'a pas respecté justement les règlements, etc. On a aussi. Alors évidemment, les bergers, ils dorment quelque part. Et on a un très très beau document qu'on mettra un jour en ligne, hein, aux archives départementales, qu'on a numérisé, qui est en fait un carnet qui a été tenu par Paul Roux, hein, qui était donc un Dinois, et quand il était jeune, donc avant la guerre de 14-18, faisait des randonnées avec ses camarades. Et donc il raconte vraiment en détail ce qu'il mange, hein, ce qu'il boit, qui il a rencontré, etc. Et à un moment donné, donc, il raconte qu'avec ses camarades, ils ont dormi avec des bergers. Alors je vous donne la description. Les cabanes étaient construites en pierre sèche et recouvertes en planches. À côté est une source. Les bergers n'y étaient pas. Donc quand ils arrivent, il n'y a pas les bergers. Hein. Ils découvrent la cabane. Enfin, les cabanes. Dans une des cabanes était une table, des bancs, une huche, un taraillon de sèbe, donc qui sont en fait des oignons, ce sont des oignons, du pain de seigle. Dans un coin était le foyer. Au mur étaient suspendues des clochettes. Dans l'autre cabane était le lit, construit en planches et rempli de paille. Voyage. Alors donc là, on est sur l'Estrou. Hein. Voilà les cabanes de l'Estrou. Et alors, ce qu'on n'a pas mis... c'est qu'après, ils racontent qu'en fait, ils ont passé la nuit dans le même lit, les trois, ils étaient trois, avec les bergers, qui étaient trois eux-mêmes, ils ont dormi tous ensemble, hein, puisque c'est la seule solution qu'ils avaient. Parce qu'il faut s'imaginer que quand on faisait une randonnée à l'époque, hein, quand ils partent, évidemment, ils partent de Digne. Ils partent très tôt le matin, souvent 4h du matin, 5h du matin, et ils font tout le trajet pour aller même déjà sur le point de départ à pied. Hein, donc il faut voir. Et d'ailleurs, il raconte aussi que quand il redescendait le soir, hein, donc, alors il n'en sait pas trop tard, hein, évidemment, hein, parce qu'il travaillait aussi. Hein, donc en général, c'était le dimanche, hein, c'était le seul jour de repos, puisque il est rentré dans la fonction publique, hein, ce jeune homme. À l'époque, il commençait sa carrière. Et donc il redescend le dimanche et il descend le boulevard Gassendi, en faisant un peu les cadors, oui, en jouant un peu les cadors, hein, parce qu'ils ont, ils ont fait une très grande marche, mais ils faisaient des marches qui étaient interminables. Enfin. Et donc là, en l'occurrence, ils montaient. Alors on a même des photos, hein, qui sont. Ils prenaient des photos, et on les voit, et on est frappé par le fait que, effectivement, les équipements sont un peu légers, et puis deux, ils montent avec beaucoup de bouteilles de vin. Ils boivent en fait du vin. Ouais. Voilà. C'est assez. Paradoxal, et là on a une photo, ils sont en train de manger, il y a du vin partout, quoi, vraiment. Alors après, ils demandent aussi, souvent ils achètent aux gens du cru, en fait, hein, des œufs, ils font des omelettes, en fait. En fait, eux amènent des pommes de terre, et ils font souvent des omelettes, hein, qui est un plat roboratif, en fait, hein, qui permet de tenir. Voilà. On arrive, avant la pause, on va faire un petit mot, donc on passe Digne-les-Bains, et donc là on a aussi beaucoup de photographies, alors. On a des photos devant la cathédrale Notre-Dame du Bourg, vous voyez, donc on voit vraiment les troupeaux qui passent. Et donc on a une très très belle image, et je terminerai là-dessus, qui montre en fait une draille où on a le passage des moutons. En arrière-plan, on voit la Javie, qui est une image, une photographie qui a été prise, alors c'est difficile de dater, mais on pense vers 1910, hein, qui montre évidemment non seulement les troupeaux de moutons, donc là ils descendent, hein, donc on est dans le sens de la descente, qui sont donc on voit même les conducteurs avec leurs bêtes de bât, hein, puisqu'ils ont besoin d'avoir des mulets pour monter ou descendre leurs affaires. Donc c'est, voilà une image qui est quand même exceptionnelle, hein, qui est plutôt rare, puisque souvent on n'a pas ces passages-là dans les drails. On les a dans les villes, dans les villages, mais pas dans les drails. Et la Javie donc, est un point important, puisque tous les troupeaux passent par là, hein, pour ceux qui remontent vers Seine. Et donc il y a la question des ponts. Vous savez, la Javie, aujourd'hui, il y a deux ponts. Et à l'époque, évidemment, les crues, hein, les cours d'eau sont pas canalisés comme aujourd'hui, hein, les flux ne sont pas aussi réguliers qu'aujourd'hui. Et donc on a toujours la question des crues. Et on a donc il y a la Bléone évidemment à traverser, la Rigeule à traverser. On a une crue en 1157 qui va emporter un ouvrage qui avait été construit juste avant la Révolution, qui lui-même avait été abîmé par des crues. Et donc, la question, c'est évidemment, qu'est-ce qu'on fait de ces ponts? Comment vont passer les troupeaux? Et surtout, est-ce qu'on ne doit pas élargir aussi celui qui reste? Voilà. Donc, on a la chance pour la Javie, c'est que à partir de 1913, la malchance de la Javie, c'est qu'à partir de 1913, la route nationale 100, ce n'est plus le passage par la Javie, mais c'est par la vallée du Besse, en fait, hein, mm-hmm. Donc la route de Barle, ce qu'on appelle la route de Barle aujourd'hui. Et donc, évidemment, l'administration ne veut pas faire des travaux, par exemple, pour élargir les ponts, pour permettre le passage plus facile des troupeaux. Voilà. Après, on a comme ça toute une série de petits ponts, hein, qui sont sur tous les cours d'eau, qui sont fort nombreux dans le département, hein, comme vous le savez. Voilà. Et donc, c'est l'une des questions, c'est le passage. Ce qui fait que quand il n'y a pas de pont, ben, les troupeaux passent dans le lit de la rivière. Hein, ils n'ont pas le choix, ce qui est le cas donc, à une certaine époque, à la Javie. Et puis ensuite, évidemment, le pont va être construit, hein, et donc il permettra plus facilement le passage. Mais la draille qu'on a, vraiment, c'est une image tout à fait exceptionnelle, hein, qui est importante à souligner. Voilà. Est-ce que je continue ou on fait une petite pause sur les drailles? Donc voilà. Donc je parlais des ponts. Alors un mot sur les ponts. hein, puisque ça sera un sujet qu'on va évoquer plus tard dans une exposition, en principe à partir de décembre. On le sait, notre département est couvert de ponts. Hein, c'est vraiment le réseau routier et le nombre de ponts est absolument considérable. Et donc évidemment, pour les conducteurs qui montent les troupeaux, c'est un vrai sujet. Hein, effectivement, il faut que les troupeaux soient capables de traverser tous les cours d'eau. Et donc il y a une histoire qui est racontée à la Javi, qui dit, alors je n'ai jamais trouvé la confirmation de cette histoire-là, que le pont, l'un des deux ponts, aurait été financé en partie par justement les conducteurs de troupeaux. Donc en fait, les conducteurs, ce n'est pas les propriétaires, mais par les propriétaires de ces troupeaux, hein, de l'accro, qui auraient financé en partie le pont pour justement permettre le passage plus facile des troupeaux qui montent donc vers les montagnes pastorales de Seine et puis de Lubaille. Hein, voilà. Donc on a, vous voyez, comme ça des histoires. Mais je n'ai pas de confirmation hein, de cette. Je n'ai jamais trouvé d'archives. C'est peut-être une légende, hein, c'était pas improbable. Peut-être qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé. Parce que les ponts, nous, ce qu'on sait sur les ponts, c'est qu'en fait, sous l'Ancien Régime, il y a une administration quand même qui est très efficace, hein, contrairement à l'image qu'on pourrait avoir de l'Ancien Régime. Et donc, on a comme ça des enquêtes qui sont faites sur les ponts, et on sait à peu près dans quel état ils sont, et on sait qui fait les travaux et qui les finance. Voilà.
On fait une pause musicale ?
Si vous voulez.
Allez.
Et on reprend après.
Et on reprend après.
I don't know how you make me feel. Another you, another me. I think you're just wasting my time. Don't want to give us any chance. You to love me to love you. I won't struggle against feelings. All the crows are flying outside. Pain is only mine, never felt by the others. I don't know how you make me feel. Another you, another me. I think you're just wasting my time. All the crows are flying outside. Pain is only mine, never felt by the others.
Alors voilà, donc je disais tout à l'heure dans mon préambule en fait que j'allais justement vous citer un témoignage qui est un très beau témoignage qui sera d'ailleurs lu ce soir par les comédiens. Donc moi je vais le lire, mais ça sera beaucoup moins bien, hein, donc évidemment, qui est sorti d'un rapport de novembre 1792. Donc vous voyez, on est en pleine révolution. On est sous la Convention, hein, puisque là, on est en République hein, depuis septembre, qui a été écrit par l'ingénieur des Ponts et Chaussées, Martin, qui n'est pas du tout originaire de la région, qui ne connaît pas du tout la Provence, qui arrive donc dans le département et à qui on demande de faire d'abord un état des lieux, en fait, hein, sur les routes, les ponts, etc. Alors, je ne vous parle pas d'état des lieux, ce n'est pas le sujet, mais il est déplorable. Hein. La fin d'Ancien Régime et la Révolution, c'est un peu la déliquescence de l'administration. Plus rien n'est entretenu, donc il y a un travail énorme à faire. Mais Martin, c'est ça tout l'intérêt de son rapport, va sortir un peu du cadre purement technique qui est le sien pour montrer toute la richesse du département, parce qu'il veut exprimer justement cette richesse auprès des administrateurs parisiens pour dire, voyez, vous avez tendance à négliger ce département alors qu'il recèle des richesses. Et donc il va, parmi ces richesses, il va évoquer la question de la transhumance, car pour lui c'est évidemment un émerveillement. Alors je vous lis. Hein. Plus on s'enfonce dans les montagnes, plus les prés fixent l'attention par leur beauté. Après la fonte des neiges, vers le mois de juin, rien de plus beau que les plaines des montagnes des Alpes. Une herbe fine parsemée de fleurs de toutes espèces offre un tapis le plus éclatant et le plus varié qu'on puisse imaginer. C'est alors que des milliers de moutons et de chèvres viennent des prairies d'Arles et de la Croix pour dévorer cette herbe si précieuse. Il n'est point de montagne dans cette contrée qui ne soit fermée pour le pacage de ces bestiaux depuis le mois de juin jusque vers la fin d'octobre. Voici à peu près ce qui se pratique pour le voyage de ces troupeaux. Sur la fin du printemps, tous les propriétaires de terrains situés le long de la route déterminent, par des amas de pierres, les limites de la voie hors de laquelle les bestiaux surpris en dommage sont saisis et rendus au moyen d'une indemnité. Les troupeaux passent par bandes de 2 et 3 000, conduites par 5 ou 6 bergers, qui transportent avec eux tous leurs effets et les ustensiles propres à faire des fromages. Un berger, chef de tous les autres, passe après tous les troupeaux et paie, chemin faisant, les dommages causés par les bestiaux et les dépenses faites par les bergers. Les troupeaux étant divisés sur les montagnes à fermer, les bergers se cabanent et font manger la première herbe aux brebis afin de se procurer plutôt du laitage. La seconde herbe est destinée aux moutons, chèvres et agneaux. Tous les soirs, ils traient les brebis et les chèvres, tandis que pendant le jour, quelques-uns surveillent les troupeaux, d'autres s'occupent de la façon des fromages que des muletiers viennent chercher sur la fin de saison. Voilà donc ce témoignage qui est tout à fait intéressant et qui, en fait, explique tout à fait le système. Vous voyez, alors, en fait, vous avez compris qu'on a donc, évidemment, des conducteurs qui passent avec leurs troupeaux, qui causent, évidemment, des dommages. Ces troupeaux passent dans des chemins qui ont été balisés par les propriétaires, qui disent, attention, la limite, elle est là. Si un mouton ou deux moutons sortent de la limite, le propriétaire peut les saisir et les restitue. Alors, il les restitue contre paiement, vous voyez, hein, donc, puisqu'il le mouton a causé un dommage et surtout il n'a pas respecté la règle du passage. Voilà. Et donc il y a parmi donc, ces troupeaux donc, un berger qui est chargé, hein, donc à la mission de, évidemment de payer ses indemnités, enfin, soit de récupérer les moutons hein, contre paiement, soit de payer des indemnités pour les dommages. Et puis de payer tous les frais hein, qui sont liés au voyage, puisque évidemment, il faut quand même s'imaginer que ces moutons, ils ne montent pas d'un coup, hein, vous imaginez, ça dure plusieurs jours, hein, donc ils ne montent pas d'un coup de la Croix jusque dans les montagnes pastorales, et donc évidemment, ils font des étapes, et à chaque étape, il faut les faire manger, il faut trouver un endroit, il faut les faire boire. Vous voyez, donc tout ça est très très bien organisé. Là évidemment, lui, il est observateur, en fait, hein, il les voit passer, donc il ne décrit pas le système complet, évidemment, hein, mais voilà. Donc ça, c'est la première chose. Et alors, justement, je vous racontais cette petite anecdote, hein, les gens de... Alors, c'était à Marcus, etc. En fait, racontaient que dans des périodes beaucoup plus récentes que la Révolution, hein, puisque c'est mémoire d'homme, là, vous voyez, uh-huh. Que quand les troupeaux passaient, t'entends un petit mouton, il y a une porte qui s'ouvrait, vous voyez, et hop, il y a un mouton qui rentrait, vous voyez, voilà. Et donc, le mouton disparaissait, quoi. Parce que dans la masse, évidemment, hein, c'est très compliqué de voir qu'un ou deux moutons ont disparu comme ça. Donc il y avait une sorte de petite, on va dire, une petite dîme hein, qui était récupérée par... Alors moi, je pensais naïvement qu'en fait, c'était ce système-là. Vous voyez, c'est en fait, en gros, on capture le mouton et on le restitue contre rétribution. Et on m'expliquait que pas du tout, qu'en fait, on gardait le mouton. Hein, que, donc évidemment, il allait terminer, évidemment, à alimenter la famille. Voilà, donc voilà. Mais c'est un très très beau, un très très beau document. Alors, il n'est pas complet, là. Hein, je n'ai pas lu tout l'ensemble. Mais il raconte hein, toutes les fleurs. Voilà, vraiment, il est émerveillé hein, par cette... par cette histoire. Je n'ai jamais fait la biographie de notre ingénieur Martin, mais c'est un urbain. Je pense qu'il est plutôt du nord de la France, voyez. Donc, évidemment, pour lui, la question agricole, et surtout, alors je pense qu'à l'époque, quand même, la France est un monde encore très agricole, hein, donc je pense que comme il avait des notions, mais la transhumance, c'est quelque chose de très particulier. Hein, voilà, et donc je pense qu'il était pas, il connaissait pas ces histoires d'élevage et de troupeaux transhumants. Donc voilà, donc il découvre vraiment, son objectif, c'est de mettre en valeur le département. Donc il n'y a pas que cet aspect-là qu'il développe, mais c'est l'un des sujets. Voilà. Alors, je raconte aussi une histoire. Je disais les riverains, donc effectivement, quelquefois, oui, ça posait quelques difficultés avec les conducteurs. Et on a comme ça on a des documents qui racontent justement de vexations, hein, de documents qui sont d'origine de la préfecture, qui racontent les vexations qui sont subies, endurées par les conducteurs des troupeaux. De la part des riverains, hein, donc comme je disais, donc certains ont d'ailleurs usurpé les carrères, hein, donc ont récupéré le terrain public, hein, pour se l'approprier pendant la Révolution, et qui leur impose des indemnités, hein, pour passer. Et donc, comme on le disait aussi, qu'évidemment, il était impossible pour les bergers de se laisser tondre la laine sur le dos, hein, puisqu'évidemment, le but, ils étaient normalement sur des espaces publics, et donc ils n'avaient pas à payer ces indemnités-là. Mais chacun essayait de tirer, évidemment, profit de cette histoire. Alors, je disais que grâce au cadastre napoléonien, on connaît le tracé donc des carrères, hein, des principales carrères, hein, pas toutes, puisque, comme je disais, donc ce sont des espaces publics, hein, donc ils sont décrits, elles sont décrites dans, elles sont tracées, hein, dans les plans. Alors, c'est un peu compliqué. Moi, je renvoie donc à la publication qu'on a faite, hein, qu'on peut télécharger sur notre site internet, hein, donc archives04.fr, hein, puisque c'est un peu technique, hein, je ne vais pas vous expliquer au détail où passe la carrière, etc. Parce qu'il y a eu, comme je l'évoquais par rapport aux routes, il y a eu quand même l'idée d'essayer de faire en sorte que les troupeaux passent le moins possible sur les routes. Et donc, il y a comme ça des documents qui ont été dressés, où on montre par où doivent passer les troupeaux, et quand ils ne peuvent pas passer, quelle route ils peuvent emprunter. Voilà. Donc, soit sur les carrières, soit sur les routes. Et donc, on a exactement comme ça, au kilomètre près, hein, le descriptif de ces passages. Voilà. Mais, alors, notre ingénieur parle de la bonne herbe. Hein, vous savez, donc, voilà. Parce que la vraie question, c'est évidemment quel est l'intérêt de monter, c'est d'avoir de la bonne herbe. Donc, cette bonne herbe, on la trouve sur les montagnes pastorales. Alors, c'est un sujet. Alors, il raconte que ça procure la richesse, évidemment, parce que les montagnes pastorales sont affermées. Hein, c'est-à-dire qu'en fait, il y a un système. Les propriétaires des troupeaux, en fait, prennent à ferme ces montagnes pastorales pour une durée déterminée, contre paiement, évidemment. C'est tout l'intérêt. Alors, ce qui n'est pas d'ailleurs sans poser des problèmes avec les éleveurs locaux, puisque qui eux-mêmes voudraient bien profiter aussi, hein, évidemment, pour leurs troupeaux de ces espaces qui sont évidemment qui permettent de nourrir les troupeaux. Voilà. Donc ça, je ne parle pas de ce conflit-là parce que ça, c'est un sujet, c'est un autre sujet. Voilà. Et donc la question, c'est que il y a quand même ce qu'on appelle un surpâturage, c'est-à-dire qu'en fait, on a tendance à faire monter des troupeaux trop importants, trop souvent, et à ne pas ménager la ressource. Ce qui veut donc, alors vous savez que les troupeaux d'ovins et de caprins sont assez dévastateurs, hein, c'est-à-dire que vraiment ils mangent tout, hein, et donc on a un autre problème qui est posé, qui est celui donc de l'érosion des sols, c'est-à-dire qu'évidemment quand il n'y a plus de végétation, les sols s'érodent, hein, donc alors ils sont lessivés, hein, déjà, hein, donc ils s'érodent, et donc on a cette difficulté-là. Or, au XIXe siècle, on a pris conscience de ce problème vers les années 1850, et on va créer d'ailleurs une administration qui va avoir pour mission de replanter des arbres ou de mettre du gazon, entre guillemets, hein, ce qu'ils appellent du gazon, les montagnes, pour éviter justement cette érosion. Et donc on va rentrer évidemment dans un conflit d'usage entre ceux qui... Donc l'administration des eaux et forêts qui veut empêcher cette érosion par des plantations, et puis évidemment les éleveurs qui, eux, veulent profiter de la montagne pastorale, sans parler des communes qui souhaitent ne pas perdre cette ressource financière. Vous voyez, donc on a comme ça quelque chose d'assez compliqué. Alors, quand l'administration prend en charge une montagne pastorale, en fait, elle paie hein, une redevance en fait à la commune. Hein, évidemment, il y a une compensation financière, si vous voulez. Hein, donc autrement, ça serait pas possible. Mais ça, c'est une des difficultés. Voilà. Donc là, on est dans les années 1860-1880, car les troupeaux, effectivement, ce qui est expliqué dans les rapports, les troupeaux d'Arles, en fait, rongent toute l'herbe. En gros, vous voyez, ce qui était une richesse pendant des années devient en fait un élément, comment dire, vous voyez, négatif. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on considérait comme quelque chose, vous voyez, sous la Révolution, hein, Martin en parle, il dit que c'est ce qui procure de la richesse aux communautés, devient au contraire quelque chose qui détériore, en fait, vous voyez, l'espace. Donc voilà, donc ça, on est au 19e siècle, et en particulier, les troupeaux rongent l'herbe, donc, hein, c'est l'expression consacrée, réservée aux troupeaux locaux. Vous voyez, donc il y a là quelque chose, et on a donc des plaintes hein, comme ça qui sont des habitants qui voudraient bien que ces pratiques soient limitées. Voilà. Alors, un mot sur Seine, donc, je disais, donc les troupeaux remontent, hein, donc la Javille, etc., et donc arrivent sur Seine. Or, Seine est un carrefour de carrière. Hein, c'est-à-dire qu'à partir de là, il y a plusieurs possibilités hein, pour partir sur le Laverque, etc. Donc, on a comme ça plusieurs drails. Alors, je vous les cite, hein, il y en a trois principales. Il y a la draille du col bas, la draille des Bernadecs, et la draille du col de la pierre. Voilà. Donc on repart, vous voyez, à partir de Seine sur ces trois montagnes. On a même des photographies des montagnes pastorales de Seine et des cartes postales. On en a une qui date de 1908, hein, qui remonte justement le reboisement hein, donc, du pic de Bernardèse. Hein, donc au début, donc on a cette image du début du XXe siècle, puisque la carte postale est datée de 1908, donc elle est au moins de cette époque. Voire plus ancienne. Et ce conseil municipal de Seine dessine en 1923 de fermer justement la Grande Montagne, hein, qui recevait quand même 2520 les meilleures années, et la Seine pour 10 ans à l'administration forestière, moyennant une redevance annuelle de 10 000 francs. Vous voyez, donc il y a une compensation qui permet justement à l'administration de faire son travail. J'arrive, on est en Ubaye, hein, donc Méolan, le Lauzet et les Tuiles. Voilà, comme je le disais, à partir de Seine, on a deux ou trois voies qui s'ouvrent au troupeau. Une qui va plein nord par la draille du col bas, hein, qui va donc vers les Hautes-Alpes, hein, qui permet au troupeau, parce qu'il y a aussi des troupeaux qui vont pas tous en Ubaye, mais ils ne font que traverser l'Ubaye pour aller encore plus haut, sans parler de ceux qui vont en Italie. Hein, qui donc il passait par Savine hein, et remontait la Durance, et l'autre qui donc par le Laverque, hein, qui permet de rejoindre les pâturages du Lubaye, en remontant la rivière via Méolan. Voilà, donc voilà le carrefour en fait qu'on peut identifier. Alors on a alors, évidemment, c'est le Graal, en fait, hein, évidemment. Hein, c'est la toison d'or, vous voyez. Quand on arrive, hein, faut s'imaginer les troupeaux, les troupeaux et les conducteurs qui viennent, qui ont fait un long chemin. En fait, ils arrivent enfin à leur destination. Et imaginons la joie des moutons, vous voyez, hein, qui courent voilà, dans les... voilà, hein, c'est une image pastorale voilà, qu'on peut tout à fait imaginer. Voilà, donc alors je disais, donc on est dans les drails. Alors par exemple, à Méolan, on a une idée hein, de la surface des montagnes pastorales. On avait quand même 2656 hectares de pâturage qui étaient broutés par 140 bœufs et vaches, puisqu'il y a aussi hein, les troupeaux locaux, mais aussi par 4600 moutons hein, qui s'éparpillent. Donc c'est les montagnes pastorales de la Blanche, de Bernardèse, qu'on appelait aussi Bernardès ou Vautreuil, donc voilà, et d'autres plus modestes sur des sections du Laverque, Saint-Barthélemy et Méolan. Et donc, comme c'est raconté par notre ingénieur, on est fin juin, et ça dure jusqu'en début octobre. On a des témoignages qui racontent que les troupeaux descendaient, quand commençait à tomber la neige, oui. Donc vraiment, il restait le plus longtemps possible, quoi. Et quand la neige commençait à tomber, évidemment, il fallait vite repartir, parce qu'autrement, on se faisait surprendre et on pouvait plus descendre. On a comme ça. Alors, je disais tout à l'heure qu'il y a des contrôles de gendarmerie, et donc ça nous permet de connaître à la fois l'identité du conducteur et donc le nombre de bêtes. Et en 1907, les gendarmes du Lozay vont multiplier les contrôles pour cette question, évidemment, de la réglementation sanitaire. Alors, à Jean-Emmanuel, qui est né dans la province de Cogny, qui a passé l'été à l'Arche et qui descend à la Valentine avec 750 bêtes. À Élie Michel, 18 ans, qui a un tout petit troupeau de 50 bêtes. À Marius Honora, qui a 34 ans, qui, lui, a 500 bêtes, qui se rend aux environs d'Arles pour l'hiver, donc qui descend. Et à, parce qu'on est entre septembre et octobre. Et à Joseph Dijol, qui a 49 ans, qui, lui, a passé l'été à Josier avec 2000 bêtes et qui se dirige vers Sainte-Marie. Voilà, donc on a vraiment comme ça une idée précise du nombre des troupeaux et de... Alors, ces gens sont soit originaires, évidemment, du pays d'Arles, etc., mais il y a aussi, et on le voit dans les registres matricules de ceux qui font leur service militaire, des hommes, des jeunes hommes, qui sont des basalpins, qui vont en fait travailler dans le pays d'Arles. On en retrouve quelques-uns, donc vous voyez, et qui eux-mêmes participent à ces transhumances. Je le disais donc, il faut donc louer les montagnes pastorales aux communes, qui rapportent donc ça rapporte de l'argent. En 1891, on a quand même 35 000 bêtes qui viennent de la Basse-Provence, qui pâturent dans les herbages dans la sous-préfecture de Barcelonnette, donc en Lubaye, en gros, et à Alos aussi, Fourse, Saint-Paul, Méolan, Uvernay, L'Arche, Le Lozay, la Condamine. Voilà, donc on a tous ces troupeaux qui participent. On a quelques troupeaux qui viennent d'Italie ou qui vont en Italie, en Piémont. Voilà, donc on a comme ça, et on a donc des affiches de location de montagne pastorale. Vous voyez, par exemple, là, j'ai une affiche devant les yeux, de septembre, samedi 1er octobre 1892. Le public est prévenu que le samedi 1er octobre 1892, à 2h dans la mairie de Barcelonnette, il sera procédé en la forme administrative à l'adjudication aux enchères publiques des montagnes pastorales appartenant à la commune Savoir, grand et petit talon situé sur la commune de Fourse, Gibette, et Costebelle situé sur les communes des Tuiles et du Vernay. Et donc, il y a un cahier des charges qui est évidemment associé à cette... Donc, c'est une question, vous voyez, importante, puisque pour les propriétaires des troupeaux, il faut absolument, évidemment, réussir à allouer ces terres. Alors, je disais aussi qu'il y a un autre sujet, c'est la question de la frontière. Et donc, on a le maire de Josier... qui raconte qu'à l'approche de la foire de Saint-Michel de Barcelonnette, donc qui se tient en septembre, les douaniers font du zèle, car les formalités à remplir par les éleveurs donc, sont multipliées à l'infini. En fait, la question, c'est les troupeaux qui traversent. Et donc, on doit payer normalement quelque chose. Et donc, évidemment, il y a quelques-uns qui essaient de passer ailleurs, mais, pour ne pas payer les taxes qu'ils devraient payer. On a aussi donc, la question pour les... qui est un sujet toujours actuel d'ailleurs, qui est la question des cabanes pastorales, car il faut que les bergers puissent évidemment... c'est-à-dire que non seulement on loue évidemment la montagne, mais il faut qu'elle soit évidemment équipée. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une cabane pastorale. Et donc on a aussi cette question-là, donc ça c'est à la charge des communes évidemment. Donc on a la question effectivement des cabanes pastorales. Alors on a comme ça des descriptions de cabanes. Tout à l'heure j'avais fait celle par Roux, quand il faisait ses randonnées. On a par exemple la cabane de Costebelle qui avait été incendiée, et on décide donc dans les années 1871 de la reconstruire. Et on a la description, les murs seront édifiés en pierre sèche, sans vide ou cale et surmontés d'une charpente rudimentaire, couverte de deux couches de planches de mélèze. Et néanmoins, en l'absence de bois, des dalles servent de couverture. Et la porte, il n'y a qu'une seule ouverture, c'est la porte. D'une cabane qui fait à peine 15 mètres carrés. Donc imaginons aussi la vie de ces conducteurs qui vont passer tout l'été jusqu'au même bien une partie de l'automne, qui vont passer toute cette période dans des cabanes qui sont quand même assez rudimentaires. On n'oserait même plus aujourd'hui se proposer ce genre d'équipement. Voilà. Alors on a aussi, et je terminerai là-dessus. On a aussi donc des photographies de bergers. Des bergers avec leur grande cape, soit des bergers même en situation, sur les montagnes pastorales. Alors on a l'exemple par exemple de Plouchu qui est né à Seine, mais qui demeure justement près d'Arles. Donc c'est un de ces basalpins justement qui vit et qui surveille lui un troupeau de 450 bêtes. On en a un autre qui s'appelle Désiré Olivier, qui est né en Chastraille, qui garde lui 394 bêtes avant de redescendre à Arles. Donc vous voyez, on a cette histoire. Voilà, on en a d'autres qui sont d'origine italienne, qui amènent des bêtes en Basse-Provence. On a d'autres comme ça. Voilà, on a plusieurs exemples. Et comme je disais tout à l'heure, la question de la frontière, en fait, il fallait payer en 1027 30 centimes par bête. Par tête. Donc évidemment, certains essayaient de passer en dehors des passages obligatoires pour ne pas payer ce droit. Voilà. Un mot sur les maladies. Donc la principale, tout à l'heure j'ai parlé de la fièvre aphteuse, mais il y a aussi et surtout la clavelée, qui est vraiment la maladie des moutons. Et en 1892, on a évidemment tous les préfets qui s'inquiètent de cette maladie et surtout de ceux qui pourraient monter avec des bêtes atteintes et donc qui pourraient contaminer évidemment, parce que c'est une maladie qui est très contagieuse, c'est une maladie dermatologique. Et enfin, et ça sera mon dernier mot, une richesse en devenir. On a un mémoire sur le département qui a été rédigé et qui écrit. Dans lequel il est écrit « Les troupeaux transhumants entrent encore dans les moyens d'existence de ces contrées. Ils dépècent 3 mois de l'année sur la crête de ces montagnes à travers des rocs presque inaccessibles et donnent un profit aux arrondissements où ils dépècent. Ce n'est pas ici le lieu de parler des causes qui entravent les progrès de ces masses de troupeaux que la variété des saisons force à ce genre de vie. Mais l'on peut observer que c'est un objet essentiel qui pourrait devenir très productif pour l'État et pour les climats où ces troupeaux se portent alternativement si l'on y donnait une attention plus particulière. » Voilà, pour vous dire, donc pour terminer, l'importance justement de ce phénomène pour l'économie locale qui fait partie évidemment de la culture provençale, vraiment au sens strict, qui associe, alors c'est ça aussi tout l'intérêt de la transhumance, qui associe évidemment Basse-Provence et Haute-Provence. Alors, Haute-Provence au sens large, c'est-à-dire y compris les Alpes de Haute-Provence, et donc qui justement permet cette relation entre les deux, qui permet aussi à des basalpins de vivre, soit pour ceux qui sont sur place grâce aux redevances, soit pour ceux qui vont travailler justement, qui vont s'installer donc justement en Basse-Provence pour justement participer à ces grands phénomènes, qui sont des phénomènes permanent en fait, puisque tous les ans on a cette montée et cette descente. J'ai oublié le nom qu'on utilise en provençal, mais il y a évidemment, je l'ai pas évoqué, mais il y a tout un vocabulaire autour évidemment en provençal, parce que les bergers ne parlent pas, ils parlent provençal évidemment. Donc on a un vocabulaire tout à fait spécifique à ce métier en fait. Ça n'est pas ma spécialité, donc je rentre pas dans ces considérations, mais pour expliquer qu'en fait c'est une culture particulière qui raconte vraiment un pan de l'histoire de la Haute-Provence et des Basses-Alpes, et aujourd'hui encore des Alpes de Provence, car c'est un phénomène qui, évidemment, est beaucoup plus marginal qu'autrefois. On n'a plus ces grands mouvements, etc. Mais on a encore quand même cette histoire qui est racontée. Un dernier mot sur les promoteurs de ce projet de la Routeau, qui est donc la maison de la transhumance, qui a lancé ce projet, et qui d'ailleurs développe aussi des produits, des vêtements en l'occurrence, qui sont... fait à partir de laine, de plus en plus des laines locales, c'est l'objectif final, même si c'est très difficile quelquefois à trouver, pour justement à la fois rappeler cette histoire, la faire vivre, et permettre à tous ceux qui s'intéressent à la randonnée d'avoir une alternative au chemin habituel que l'on peut emprunter. Et donc j'invite tous ceux qui nous écoutent à aller justement récupérer notre petit journal ou aller tout simplement sur le site de la Maison de la Transhumance où ils auront toutes les informations sur la Routeau.
Jean-Christophe Labadie, merci. Et puis au mois prochain. Et puis en attendant, donc, on peut toujours venir écouter les conférences. Donc une ce soir.
Ce soir, c'est une lecture d'archives donc, au Chaffaut,
hein, oui,
au
Chaffaut Saint-Jean. Par la lecture, voilà, par Mobile Compagnie.
Voilà, qui sera donc la Transhumance en Haute-Provence. Hein, et demain, aux archives départementales, nous avons une conférence à 18h. Qui sera une conférence débat autour de, alors on a appelé Entrée en résistance, avec entre autres comme intervenant un neveu du général de Gaulle, hein, qui est donc avocat à Aix-en-Provence, et qui viendra évoquer ce sujet, mais avec d'autres personnes, hein, ils sont plusieurs, ça sera plusieurs voix. Voilà, donc, donc j'invite les uns et les autres à venir écouter cette conférence aux archives départementales à 18h, donc vendredi. Et ce soir, donc, pour les autres, s'ils veulent continuer à vivre cette histoire de la transhumance, de venir donc au Chaffaut. Voilà.
Merci, et au mois prochain sur notre antenne.
Exactement.
Voilà. Au revoir.
À bientôt.
Bonne journée.